est générale. Elle est générale parce qu'elle se manifeste dans tous les domaines, politique, sociale, crise financière, crise de civilisation d'une manière générale. Donc ça va très au-delà de la France. C'est lié à une évolution générale des choses, au fait que nous sommes sortis de la modernité pour rentrer dans la postmodernité, que les anciens repères qui permettaient aux gens de se guider dans la vie se sont effacés ou ont été supprimés, déconstruits, et on est dans ce qu'on appelle la crise. Le mot « crise » est un mot un peu vague, qui montre que rien ne va plus normalement, rien ne va plus comme avant, on ne sait plus très bien vers quoi se tourner. Alors, ça paraît très abstrait, mais il y a aussi des retombées concrètes, évidentes, sur le plan social en particulier. On assiste à une baisse des salaires ou à une stagnation des salaires. Il n'y a plus de croissance économique, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, les mesures d'austérité qui ont été prises par les différents gouvernements à la suite de la crise financière de 2008, qui s'est traduite pour les États par un endettement public extraordinaire, font qu'on a pris on a mis en œuvre des politiques d'austérité dont les effets ont été désastreux. Mais au-delà de ces aspects matériels, concrets, auxquels les gens sont très sensibles, il y a une crise générale de civilisation. Il y a un épuisement des doctrines, un épuisement des récits, un épuisement de tout ce qui donnait du sens. Et finalement, la meilleure définition qu'on puisse donner d'une crise, c'est une perte de sens. Le sens dont les gens ont besoin pour vivre, tout simplement.
Est-ce que vous croyez que cette perte de sens est guidée par la doctrine postmoderniste, la doctrine de Foucault, de Bourdieu,
Ça a joué un rôle, mais on ne peut pas dire que c'est Foucault, Derrida qui ont créé la crise. Ils ont contribué à déconstruire un certain nombre de choses. Et puis après, il y a des dynamiques qui se mettent en place, qui ne sont pas toujours des dynamiques dirigées, pilotées par des gens. Vous savez, c'est comme il y a une sorte de phénomène cybernétique, c'est comme la science. La technoscience se développe d'elle-même, il n'y a pas quelqu'un qui la dirige, mais le résultat est le même. Le monde financier, c'est un peu la même chose. Alors sur le plan politique, puisqu'il faut en venir au plan politique, on assiste à un épuisement de la vieille classe politique représentée par des grands partis de gouvernement qui, au fil des années, réunissent tous ensemble un nombre de suffrages de plus en plus petit. Je dirais qu'on est passé d'une société, vous savez, il y a une théorie, la société des deux tiers. Ça voulait dire qu'on vivait dans une société où à peu près les deux tiers des gens étaient plus ou moins satisfaits du monde dans lequel ils vivaient, et puis il y avait toujours un tiers de mécontents. Aujourd'hui, c'est renversé. C'est-à-dire qu'il y a deux tiers de mécontents, et il n'y a plus qu'un tiers de gens qui sont satisfaits de leur situation. Donc c'est un changement considérable. Ça s'est traduit en particulier par une défiance qui est mesurée par les sondages, et qui monte depuis 20 ans, une défiance envers les élites financières, politiques, médiatiques, tout ce qui est en haut, qui est perçu comme une oligarchie soucieuse de ne défendre que ses propres intérêts. Donc il y a un fossé qui s'est ouvert entre le monde qui dirige et le peuple. Et ce fossé est particulièrement impressionnant entre les partis de gauche et le peuple, parce que traditionnellement, on considérait que c'était plutôt les partis de gauche qui défendaient le peuple, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On le voit très bien d'abord sur le plan théorique. Les partis de gauche se sont ralliés au système capitaliste, ils sont rentrés dans le système du marché. Et d'autre part, le peuple aujourd'hui, il vote plutôt à droite, ou il vote pour le Front National, ou il s'abstient. C'est-à-dire que la crise de défiance entraîne un déplacement des votes et d'autre part une montée de l'abstention, c'est-à-dire une montée des gens qui sont découragés parce qu'ils ne trouvent jamais quelque chose qui les satisfait. Un autre facteur important qui joue, c'est le recentrage des programmes, c'est-à-dire que les partis qui se disent de droite ou de gauche, finalement, font la même politique. Et les gens voient bien que qu'ils votent pour les uns ou pour les autres, finalement, ça ne change pas grand-chose. Les gens voient aussi que sur les problèmes qui ont le plus affecté leur vie quotidienne, l'immigration, la mondialisation, le déploiement de l'Union européenne, on ne les a jamais consultés, et quand on les a consultés, on n'a pas tenu compte de leur avis, comme ça s'est passé en 2005, lorsque les Français avaient dit non au projet de traité constitutionnel européen, et que finalement on a fait comme s'ils avaient dit oui, n'est-ce pas ? Donc là, le cœur de la crise sur le plan politique, c'est la défiance, la coupure entre le peuple et les grands partis, la montée de mouvements atypiques, hier marginaux, mais qui prennent de plus en plus d'importance, qu'on appelle de façon généralement méprisante ou péjorative des partis populistes, hein, mais qui ne cessent de monter au détriment des grands partis politiques. Et on en a eu beaucoup d'exemples, par exemple la montée de Syriza en Grèce a fait disparaître le vieux parti socialiste, c'est un peu la même chose qui se passe en ce moment en Espagne avec la montée de Podemos. L'élection présidentielle autrichienne a vu s'affronter un écologiste et un populiste. Les deux grands partis autrichiens ont été absents du scrutin. Il y a eu le phénomène du Brexit, il y a eu le phénomène de l'élection de Donald Trump. Donc, on voit bien qu'il y a une déstabilisation générale. Et en France, où les choses sont allées beaucoup plus vite que je ne le pensais, on assiste un peu au même phénomène. C'est-à-dire que nous sommes à quelques semaines d'une élection présidentielle qui est importante, je dirais même qui est historique, parce que d'abord, elle s'est déroulée d'une manière très étrange, avec des coups de théâtre, des rebondissements, des surprises, tout un tas de choses curieuses. Il y a eu les élections primaires, à droite et à gauche, qui, dans les deux cas, ont abouti à l'élimination des favoris, c'est-à-dire d'un côté Sarkozy et Juppé, de l'autre Valls et Montebourg, au profit de Fillon et de Hamon. Et en même temps, les deux tendances, les deux courants dont on parle le plus, c'est le Front National de Marine Le Pen, et ce nouveau mouvement créé par l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui représente précisément les élites financières politiques d'hier. Et on assiste de cette façon-là à une polarisation de type nouveau. C'est-à-dire qu'autrefois, la polarisation classique, c'était la droite contre la gauche contre la droite, c'était une ligne horizontale, et puis le curseur se promenait plus d'un côté ou plus de l'autre. Aujourd'hui, on est dans un schéma vertical et plus du tout horizontal. C'est ceux d'en bas, le peuple, et ceux d'en haut, les élites, aujourd'hui discréditées comme une oligarchie plutôt nocive par rapport aux intérêts populaires, aux intérêts des classes populaires, des classes moyennes, qui sont aujourd'hui menacées de déclassement. Et le résultat tout à fait extraordinaire, tout à fait nouveau, c'est que pour la première fois depuis que l'élection présidentielle existe, depuis que le président de la République est élu au suffrage universel, il y a une assez grande probabilité qu'au deuxième tour, puisque en France il y a deux tours dans l'élection présidentielle, que le deuxième tour, c'est seulement les deux premiers, ceux qui sont arrivés en tête au premier tour, qui se retrouvent face à face, il y a donc une forte probabilité que le deuxième tour voit s'affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est-à-dire les représentants du haut et du bas. Cela signifie que pour la première fois, les deux grands partis de gouvernement qui ont gouverné en France depuis 30 ou 40 ans, le parti de droite qui s'appelle aujourd'hui les Républicains et le parti de gauche qui s'appelle depuis longtemps le Parti Socialiste, ne seront plus présents au deuxième tour. Ça, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit. Alors, ce n'est pas encore certain, puisque il y a quelques semaines avant l'élection, on ne sait jamais parce que ça change toujours, mais c'est en tout cas un scénario qui est possible et qui montre que nous sortons, dans une certaine mesure, de la Ve République telle que nous l'avons connue, avec un schéma totalement différent, avec une reconstruction générale du paysage politique. Oui, oui et non, parce que ce n'est plus l'ancienne classe ouvrière. L'ancienne classe ouvrière, aujourd'hui, elle est un peu noyée dans un bloc plus général qu'on appelle les classes populaires, qui comprennent à la fois les ouvriers, les employés, mais ça représente beaucoup de monde, c'est-à-dire que sans ces classes-là, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité possible. Jean-Luc Mélenchon essaye de créer ce qu'on appelle un populisme de gauche. Son modèle, c'est un peu Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce, évidemment. Il a beaucoup de difficultés. Il a beaucoup de difficultés parce que il y a toujours cette question très difficile en France de l'immigration et que les pathologies sociales qui ont été engendrées par l'immigration, par une immigration trop rapide, trop volumineuse, mal accueillie, mal organisée, cette immigration produit des effets négatifs qui sont surtout perçus par les classes populaires. Ce sont les classes populaires qui vivent au contact de la population d'origine immigrée, c'est pas du tout les élites qui vivent dans des beaux quartiers où il n'y a pas d'immigrés. Et comme Mélenchon ne peut pas, compte tenu de son emplacement politique, prendre une position très ferme sur l'immigration, les gens préfèrent voter pour Marine Le Pen. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a certaines similarités entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. D'abord parce que le programme économique de Marine Le Pen est assez proche, finalement, de celui de Mélenchon, beaucoup plus proche que de celui de Macron ou de Fillon. Et puis parce que leur style est un peu semblable. Eux aussi, l'un et l'autre, sont hostiles à l'ancienne classe politique. C'est la raison pour laquelle, et on le lui a beaucoup reproché, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas désisté au profit de Benoît Hamon. Si Mélenchon était resté dans le vieux schéma gauche-droite, ben, il aurait dit « on va additionner mes voix et les voix de Hamon, et en réunissant tout ça, on a une chance peut-être d'être au second tour ». Non, il s'est maintenu. Et évidemment, parce qu'il s'est maintenu, on sait que la gauche n'accédera pas au second tour, c'est une responsabilité très grande qu'il a prise. Mais cela correspond à son caractère populiste, à son style populiste.
Est-ce que vous croyez que le populisme peut devenir l'idéologie, pas rester uniquement le style ?
Je ne crois pas. Le populisme, je crois que c'est une erreur de parler d'idéologie populiste. Lorsqu'on regarde les mouvements populistes, on voit une extraordinaire diversité. C'est pour ça qu'on dit parfois, par commodité de langage, il y a des populistes de droite, des populistes de gauche. Bon. Il y a des mouvements populistes qui sont très libéraux sur le plan économique ou sociétal, et d'autres qui sont tout à fait antilibéraux. Donc, la vérité, c'est que le populisme peut se combiner avec n'importe quelle idéologie. Ce n'est pas en soi une idéologie, c'est un style. C'est une manière de concevoir la politique à partir de la base, de faire appel au peuple ou de parler au nom du peuple, selon le schéma que j'exposais tout à l'heure. Nous, le peuple, nous ne voulons plus de cette classe dirigeante, corrompue, égoïste, qui n'est pas à l'écoute des citoyens, et ainsi de suite. C'est ce style-là, c'est l'appel au peuple. Alors maintenant, quand on fait l'histoire du populisme, les historiens, les politologues, on fait l'histoire du populisme, on repère dans le passé des choses qui, généralement d'ailleurs, ont fait commencer le populisme en Russie, et aux États-Unis, à peu près à la même époque, avec en Russie le mouvement des Narodniki, donc de ces socialistes qui allaient vers le peuple des campagnes pour alphabétiser, développer une conscience politique populaire, mais en misant sur la communauté paysanne, qu'ils estimaient la meilleure manière de résister à l'expansion du capitalisme occidental. Et puis aux États-Unis, à peu près au même moment, vers 1860-1870, le mouvement qu'on a appelé les Grangers, qui était le mouvement de défense des paysans, des petits propriétaires terriens, et qui a abouti au premier parti politique, qui était le People's Party, qui a été très actif jusqu'au tout début du XXe siècle. Et puis il y a évidemment d'autres exemples que l'on peut prendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le populisme apparaît toujours dans les situations de crise. Il apparaît au moment où la démocratie libérale montre ses limites. La démocratie libérale est une démocratie parlementaire et représentative. Et elle atteint ses limites lorsque les représentants ne représentent plus rien. C'est ce que la critique de la représentation qui a été faite au XXe siècle par Carl Schmitt, avait été faite déjà au XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau. Rousseau faisait observer très justement que dans la démocratie libérale, le peuple est souverain le jour de l'élection, et uniquement ce jour-là. Car dès le lendemain de l'élection, sa souveraineté a été abandonnée au profit de ses représentants, qui vont en faire l'usage qu'ils veulent et qui n'est pas toujours celui que souhaitent leurs électeurs. Et il y a une très grande vérité, évidemment, dans cette critique. Donc, le populisme souhaite revenir à une démocratie plus permanente, plus réelle, avec des procédures comme le mandat impératif, qui permet de contrôler les députés une fois qu'ils ont été élus, c'est-à-dire de vérifier si ce qu'ils font est conforme à ce que l'on attendait d'eux. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon propose des mesures de ce type qui permettent de contrôler ce qu'on a élu, y compris le chef de l'État, pour vérifier que c'est bien ce pourquoi ils ont été mandatés. C'est aussi le recours à des formes de démocratie plus directe, de démocratie participative. On oppose toujours la démocratie participative à la démocratie représentative. C'est aussi le référendum, une démocratie plébiscitaire, ou le recours au référendum d'initiative populaire que propose par exemple Marine Le Pen, un peu sur le modèle des référendums qui se déroulent en Suisse. donc l'initiative du référendum, ce ne soit pas seulement le pouvoir central qui dit « je vais organiser un référendum », mais que ce soit le peuple lui-même, lorsque 300 000, 500 000, 1 million de gens demandent qu'on pose une question, et voilà, le référendum a lieu. Donc, je crois que c'est important de dire que le populisme n'est pas en soi une idéologie, mais un style. Alors, dans l'avenir, est-ce que ça sera comme ça? Est-ce que le populisme peut progressivement devenir une idéologie? Je ne sais pas, c'est possible, c'est pas impossible, mais nous manquons trop de distance. Étant donné que les populismes sont très divers, lorsque sera venu le moment de faire le bilan de tout ça, le bilan sera nécessairement contrasté. Il y aura des populismes qui auront réussi, d'autres qui auront échoué, très certainement. Et puis on verra à ce moment-là ce qu'il en sera. Mais je pense que pour l'instant, il faut interpréter le populisme comme un phénomène de transition. Il y a un ancien monde avec des vieux partis, des vieilles élites dirigeantes, et la montée du populisme aboutit à les faire disparaître, à les écarter de plus en plus. Donc, il y a une transition. Vers quoi est-ce que ça va? Vers quel type d'institutionnalisation, de mouvement politique? Bon, c'est trop tôt pour le dire.
Les Russes vont dire que vers la fin du monde,
c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. Il ne faut pas confondre la fin d'un monde et la fin du monde, mais c'est la fin d'un cycle, c'est une sorte de tournant historique qui est maintenant à peu près partout. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce n'est pas du tout un mouvement intellectuel. C'est vraiment un mouvement qui s'adresse à des classes populaires qui, généralement, ne lisent pas les philosophes. Il y a des exceptions, bien entendu. Mais cela dit, il y a quand même des auteurs qui ont essayé de théoriser le populisme. Oui, il y a donc des auteurs comme Ernesto Laclau, mais également, je pense aux États-Unis, à un auteur important comme Christopher Lasch, qui s'inspirait beaucoup de George Orwell, et qui dont les thèses en France sont défendues par Jean-Claude Michéa. Donc il y a des philosophes politiques, il y a Chantal Mouffe aussi, qui est la femme de Laclau, qui est toujours active parce que Laclau est mort il y a quelques années. Donc du point de vue de la philosophie politique, il y a des auteurs qui théorisent et qui essayent de donner aussi quelques consignes ou quelques conseils aux mouvements populistes. Mais on ne peut pas dire que les mouvements populistes en tant que tels ont beaucoup de références intellectuelles. Si vous prenez, Marine Le Pen, je crois, n'a pas elle a d'autres qualités, mais elle n'a pas des connaissances philosophiques ou théoriques très considérables, et ce n'est d'ailleurs pas ce que les gens attendent d'elle. Ben, les antipopulistes adhèrent à l'idéologie dominante. Alors, qu'est-ce que c'est l'idéologie dominante? C'est pas la vieille gauche, ce n'est pas le... nous ne sommes plus du tout à l'époque de la domination, du vieux marxisme. On est dans autre chose. C'est un mélange de libéralisme, c'est la base, de libéralisme, d'individualisme, d'idéologie des droits individuels. C'est l'idéologie des droits de l'homme, mais étendue à l'infini, c'est-à-dire une prolifération de droits qui exigent pour être satisfait une institutionnalisation croissante, pour faire droit à n'importe quel désir ou à n'importe quel fantasme présenté comme une revendication tout à fait naturelle et essentielle. C'est évidemment un économisme, c'est-à-dire l'idée que l'économie l'emporte sur le politique, donc la négation du primat du politique. C'est une conception individualiste qui refuse le holisme, c'est-à-dire qui refuse l'idée qu'un peuple est quelque chose de plus qu'une addition d'individus. C'est le phénomène de la consommation, ou ce que Karl Marx appelait le fétichisme de la marchandise, hein, c'est-à-dire cette idée que l'homme est sur Terre pour maximiser son intérêt matériel individuel, hein, et donc que tout ce qui permettrait de donner un sens à l'existence et à la présence humaine au monde doit être écarté comme quelque chose de pas très important ou qui en tout cas doit être sorti de l'espace privé. Donc c'est cette idéologie très pesante qui a son prolongement naturel dans le mondialisme ou le cosmopolitisme. Je dirais que c'est une idéologie qui vise à la suppression des limites, c'est-à-dire les limites, c'est les différences, les frontières, tout ce qui permet de distinguer, tout ce qui permet de différencier, cette idéologie-là veut le supprimer. Le capitalisme est un dispositif d'arraisonnement du monde qui est mu par l'illimité, l'illimitation, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus de profit, toujours plus de marché, toujours plus de marchandises. Le toujours plus, c'est le mot d'ordre de cette tendance. Et par conséquent, pour transformer la planète en un gigantesque marché, il faut supprimer tous les obstacles politiques, sociaux, culturels, donc supprimer les différences. C'est la raison pour laquelle cet universalisme est amené à considérer ou à estimer que les différences entre les peuples, les différences entre les langues, entre les cultures, entre les histoires, tout ça doit être balayé parce qu'il faut homogénéiser, uniformiser et faire que la planète soit un espace lisse, habité par un même homme qui serait de partout et de nulle part, c'est-à-dire en réalité un homme abstrait, hors sol. Car les frontières, ce sont aussi des limites. Donc le mouvement sans frontiérisme, que l'on voit aujourd'hui se développer, ça c'est vraiment l'antipopulisme, parce que le cœur de l'aspiration populiste, c'est l'aspiration des peuples à rester à peu près eux-mêmes, c'est-à-dire à continuer d'exister avec leurs valeurs, leur histoire, leur culture, leur mode de vie, leur façon d'être, leur façon d'exister, hein, qui aujourd'hui apparaît comme menacée. Donc il y a dans la protestation populiste, et je dirais pas seulement le populisme des partis populismes, mais ce que Vincent Coussodière appelle le populisme du peuple, c'est-à-dire le désir de se perpétuer, de durer, de continuer à exister, et pour cela, d'être souverain sur les conditions de sa propre reproduction sociale et historique. Donc là, la question de l'idéologie des adversaires du populisme, au fond, c'est ça. Le populisme veut du local, les antipopulistes veulent du global. Les uns veulent se réenraciner, les autres veulent se déraciner. Les uns veulent des circuits longs, les autres veulent des circuits courts. Et par conséquent, il y a une rupture qui est très fondamentale et qui va au-delà des affrontements droite-gauche qu'on a pu connaître dans le passé.
Est-ce que nous pouvons dire que l'adversaire du populisme, l'antipopulisme, sort de la religion ?
Bon, en Europe occidentale, le problème ne se pose pas énormément, dans la mesure où, si je prends un pays comme la France, vous avez une majorité de Français qui sont athées. C'est comme ça, on peut le trouver que c'est très bien ou que c'est très mal, mais c'est la réalité. Donc, les mouvements populistes sont rarement des mouvements confessionnels. c'est-à-dire qui se réclament d'une spiritualité particulière. Beaucoup de leurs adhérents, bien sûr, peuvent avoir, à titre personnel, appartenir à une église catholique, protestante ou orthodoxe d'ailleurs, hein. Mais les mouvements eux-mêmes ne se disent pas confessionnels. Il y a eu en France, il y a quelques années, peu de temps, beaucoup de bruit avec ce qu'on a appelé la manif pour tous, la manifestation pour tous, qui est en fait un nom pour décrire le vaste mouvement de protestation contre le projet de mariage homosexuel ou des choses de ce type-là, qui a vu revenir un peu sur le devant de la scène des gens qui étaient de leur très très grande majorité catholiques. Hein. Mais même ce mouvement-là ne se donnait pas explicitement comme chrétien. Hein. Par contre, il insistait beaucoup sur la dimension chrétienne de l'histoire de France, sur ce qu'on a appelé les racines chrétiennes de l'Europe et sur ce genre de choses-là. Mais on ne peut pas faire un parallèle ni avec la Russie ni avec l'Amérique. L'Amérique est un pays très matérialiste, mais où la religion est en même temps très présente, religion protestante principalement. La Russie est encore un autre cas, c'est la religion orthodoxe, qui a un rôle très important, très considérable, et qui a eu, avec le politique, dans son histoire, un rapport totalement différent de celui du catholicisme. Donc, le parallèle est toujours un peu difficile à faire. En France, surtout en France, il y a le thème de la laïcité, hein, ce fameux mot qu'on n'arrive jamais à traduire très bien dans les langues étrangères. Hein. Les Anglais disent « secular »,« secularity », mais c'est « séculier », c'est pas tout à fait ça. Hein. L'idéologie française, c'est la neutralité, c'est la séparation des églises et de l'État, et la neutralité de l'État vis-à-vis des croyances. Hein. En théorie, la laïcité, c'est ça. Ça a pris récemment une coloration un peu différente en raison des polémiques sur la montée de l'islam en France, qui a fait apparaître des types de problèmes qui n'existaient pas auparavant lorsqu'il n'y avait que des catholiques, des protestants et des juifs. Les polémiques sur les sondages sont aussi vieilles que les sondages eux-mêmes. Les sondages ont amélioré leur méthode, ils ne sont pas si mal faits, mais ils n'ont pas de valeur prédictive. C'est ça le problème. Lorsque l'on dit aujourd'hui tel candidat est crédité de tel 10%, 15%, 25%, les gens se disent voilà, c'est ce qu'il va avoir à l'élection présidentielle. Mais ça, ce n'est pas vrai. Si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, voilà quels seraient les résultats. Mais comme ça change sans arrêt, et que ça change de plus en plus, et que beaucoup de gens sont indécis et ne savent pas que répondre quand on leur pose la question, ils sont de plus en plus, d'autant plus nombreux que l'on est loin de l'échéance électorale. Il faut aussi tenir compte du fait que les gens qui disent « je vais voter Marine Le Pen » ou « je vais voter Macron » ou « je vais voter Mélenchon » n'ont pas tous la même certitude. Lorsque on leur dit « est-ce que votre choix est absolument définitif ?» ou « est-ce que vous pouvez encore changer ?» Alors ça varie beaucoup. Chez Marine Le Pen, il y en a très peu qui veulent changer. 80% disent, donc, de toute façon, quoi qu'il se passe, moi, je vote Marine Le Pen. Par contre, chez Macron, par exemple, 60% de ceux qui disent, oui, je voterai Macron, quand on leur dit, est-ce que vous pouvez changer, ils disent, ah oui, peut-être que c'est ça. Alors, il y a aussi la marge d'erreur des sondages. Hein. On ne peut jamais donner un résultat qui est sûr à 1% ou 2% près. quand on dit que Macron est à 25%, ça veut dire qu'il est à environ 25%, ça peut être 26, ça peut être 24, ça peut être 23, bon, c'est la même chose pour les autres candidats. Donc, il y a toujours ces polémiques autour des sondages. De même, il y a une critique qui revient régulièrement, qui est de dire, quand on publie un sondage, ceux qui obtiennent les meilleurs résultats dans ce sondage sont favorisés, parce que les gens disent, un tel va gagner, alors je vais voter pour lui. Mais d'autres enquêtes ont montré qu'il y a l'effet inverse aussi. C'est-à-dire, oh là là, celui que je n'aime pas va gagner, alors moi je vais voter pour les autres. C'est ce qu'on appelle faire mentir les sondages. Donc c'est une affaire assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sondage n'est pas l'élection. Et ce n'est pas l'élection, d'abord parce que ça ne se déroule pas au même moment, mais aussi parce qu'il y a une différence fondamentale, qui est la différence entre le public et le privé. Le sondage s'adresse à des personnes privées à qui on téléphone chez elles pour leur demander quel va être leur choix. Le vote, c'est un acte public, c'est un acte de citoyenneté. On se déplace, on va voter. Ce sont deux démarches complètement différentes. Et le paradoxe des sondages, et leur principale limite, c'est qu'ils prétendent reconstruire une opinion publique en additionnant des opinions privées.
Les dernières questions pour finir. Selon vous, sur quelle valeur l'Europe, la prochaine Europe doit être fondée?
Ça, c'est les questions pièges. Hein, parce qu'on ne peut pas donner une réponse simple. Je veux dire. La caractéristique de l'Europe, c'est son incroyable diversité. C'est comme si vous me disiez quelle est la façon européenne d'organiser la société. Mais on a eu toutes les façons. On a eu les cités, on a eu les nations, on a eu les empires, on a eu les dictatures, on a eu les monarchies, on a eu les systèmes totalitaires, on a eu les démocraties. On a tout expérimenté. Donc je dirais, s'il fallait quand même parler de valeurs, je dirais une conception de l'homme plus équilibrée et plus moins réductrice que celle qui prévaut actuellement. C'est-à-dire l'homme considéré dans ses besoins matériels mais aussi spirituels, dans sa vie de son âme, de son esprit et de son corps. Qui ne forment d'ailleurs qu'une unité quand on y regarde bien. Il y a aussi la valeur de l'histoire, de la mémoire, de la plus longue durée. Nous sommes riches d'un extraordinaire héritage. Cet héritage, il ne faut pas le regarder d'une manière réactionnaire ou restaurationniste en se bornant à dire « c'était mieux avant ». Ce n'est pas parce que c'était mieux avant que ça va redevenir comme avant. Les traditions sont faites pour être actualisées, transformées. L'identité, ce n'est pas ce qui ne change jamais, c'est ce qui nous permet de rester nous-mêmes en changeant tout le temps. Et l'histoire de l'Europe, c'est une série de métamorphoses. L'Europe d'aujourd'hui n'est pas l'Europe de la révolution industrielle, de la Renaissance, du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Et pourtant, c'est toujours l'Europe, bien entendu. Donc, il y a des constantes, il y a des choses qui nous permettent de traverser le temps et de nous renouveler. Et puis, il y a des périodes de crise. Nous sommes dans une période de crise. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien comment refonder l'Europe, comment refonder les nations, comment refonder les peuples. Il n'y a pas de recette. Ce n'est pas comme pour faire des tartes ou des gâteaux. Il n'y a pas de recette, la vieille question de Lénine, que faire? S'il y avait une réponse simple, ça se saurait depuis longtemps. Mais avant de faire un pronostic, il faut faire un diagnostic. Par conséquent, il faut voir ce qui ne va pas. Et une fois qu'on a identifié ce qui ne va pas, et qu'on a commencé à supprimer ce qui ne va pas et qui détruit, alors on crée l'espace dans lequel d'autres choses neuves, plus positives, peuvent apparaître.